On est sur Radio Kipik, en direct du festival Résistance à Foix. Et je suis avec trois personnes autour de cette table. On va faire un petit tour de présentation.
Oui, bonjour, moi je suis Judith, habituellement un bénévole à la cantine. Ça fait 2 ans que je fais partie des comités de sélection des films. Et cette année, je fais partie du comité Colonie d'aujourd'hui, Dom Tom d'aujourd'hui. Enfin, qui s'appelle pas vraiment comme ça, mais on n'a pas trouvé le nom qui nous allait bien. Pour signifier que la France est un pays colonial plus, et que c'est pas parce que ils perdent un petit peu de puissance en Afrique que ça les empêche de coloniser ailleurs. Et notre thématique a commencé hier, aujourd'hui, on a commencé ce matin avec un film réunionnais, du coup... Nous avons invité des personnes pour parler de cet endroit spécifiquement et de son passé par ailleurs. Donc il y a Yannick et Johan qui sont avec nous pour parler de ça.
Bonjour, donc moi c'est Johan, originaire de la Martinique. Je suis un membre de la Ligue panafricaine Moja, LPU, qui est une association qui essaie de fédérer le continent africain avec un but plutôt politique pour qu'on puisse reprendre l'Afrique des mains des colonisateurs, mais c'est quelque chose d'assez difficile à mettre en place. Donc on essaie quand même de faire des conférences, de mettre en place des réunions qui permettent d'informer les gens sur... notre histoire et sur ce qui se passe actuellement en Afrique. Voilà. Donc je m'intéresse beaucoup à ce sujet, à l'esclavage, autant dans les îles que sur le continent africain.
Merci.
Je t'en prie.
Et bonjour, du coup, moi c'est Yannick Mzebwana. Je suis cofondateur du mouvement Kapor Moon, qui est un mouvement d'autodétermination pour le peuple réunionnais. Anciennement membre de Kaubuntu, qui est le parti politique indépendantiste réunionnais, et activiste militant pour la reconnaissance et la réhabilitation de l'identité et de la culture réunionnaise. Et voilà, je suis éducateur spécialisé dans ma vie personnelle.
Merci. Moi, j'ai une question vraiment un peu genre de base. Je crois que j'aurais besoin de... comprendre l'un après l'autre peut-être, c'est quoi derrière, c'est quoi votre histoire coloniale, et du coup vous en avez deux différentes aussi,
ouais.
Voilà, je veux bien, si t'as envie de commencer, Yann.
Alors, mon histoire coloniale, la Martinique c'est une île qui... C'est une île dont effectivement les colons ont amené beaucoup de personnes d'Afrique pour cultiver la canne à sucre généralement. Et par la suite, ont mis en place la culture et le développement du rhum antillais. Et malheureusement, ces personnes appelées les béquets, aujourd'hui, ont assis leur domination... dans ce pays en prenant le contrôle de tout ce qui est commerce. Voilà, donc ils sont présents un peu partout et aujourd'hui on les voit. On a le mouvement de la vie chère en Martinique parce qu'effectivement ces personnes, avec l'appui de la France, du président et de tous les ministres, eh bien, ils assoient leur domination. Même avec les demandes des populations, ils continuent avec des raisons soi-disant, ils appellent ça l'octroi de mer, soi-disant ils excusent les prix élevés avec cet octroi de mer qu'ils pourraient effectivement supprimer, mais ils le laissent en place pour s'enrichir et faire souffrir les gens. Voilà.
Il me semble même, de moi, ce que je comprends aussi, que c'est tellement bien organisé qu'en fait, c'est les mêmes bateaux qui importent les matières consommables d'ailleurs, qui servent à faire repartir les bananes, le rhum, les choses qui sont produites Exactement. Sur place. Ce qui fait que ça fait comme un genre de triple profit, puisque du coup, la justification de dire « on importe ouais. », elle veut rien dire, puisque c'est les mêmes bateaux qui exportent.
Tout à fait. Il y a vraiment... l'envie de que tout ce qui circule, toute cette économie ne dépende que d'eux-mêmes. Ce qui leur permet bien sûr de s'en mettre plein les poches avec l'appui de l'État. Voilà. Donc on vit ça.
Je refais une petite digression. Il y a un film qui s'appelle 44 jours qui passe demain avec la réalisatrice Martine Delumeau qui parle exactement de ça. Voilà. Du coup, bon, en Guadeloupe, mais.
Ouais. Guadeloupe, Martinique, c'est la même situation. Ce sont les mêmes familles qui sont à la tête de cette économie et qui bénéficient de l'appui de l'État, malheureusement. Et aujourd'hui, on le voit, tous les commerces ne sont de plus en plus tenus que par des personnes venant de France ou même des... On voit même des kebabs apparaître en Martinique, par exemple. Et malheureusement, le centre-ville qui autrefois était bien animé aujourd'hui est de plus en plus déserté et il y a de moins en moins de jeunes présents dans l'île pour animer l'île comme ça l'était auparavant. Donc c'est triste, mais bon.
Merci. Yannick, t'as envie de parler de la situation de l'histoire coloniale ? Moi je voulais te poser une question sur l'histoire coloniale.
Alors l'histoire coloniale de La Réunion, elle est un petit peu différente de celle des Antilles. À savoir qu'elle a commencé par des colons qui venaient de Fort Dauphin, donc sur le territoire malgache, qui était déjà en voie de colonisation par la puissance impérialiste française. Et ces colons, du coup, les frères païens ont ramené ce qu'ils ont appelé servantes, pour minimiser l'impact du terme, mais qui étaient en vrai des esclaves malgaches. Pour essayer de faire un premier peuplement à La Réunion, si je ne me trompe pas, c'était en 1644. Il se trouve que ces esclaves-là ont fui en marronnage. Et de ce fait-là, les fameux frères païens sont repartis à Fort Dauphin, du coup à Madagascar, en reportant leur expédition pour quelques années plus tard. Et en revenant à la seconde expédition, ils se sont rendus compte que ces esclaves qui avaient fui en marronnage, donc que nous on appelait le marron, avaient réussi à se reproduire, à avoir des enfants, à commencer à cultiver la terre. Et du coup, c'est là qu'ils ont décidé de pouvoir faire vraiment la colonisation totale de La Réunion telle qu'on la connaît, avec les différentes vagues de peuplement. Donc la première vague de peuplement, c'était des esclaves originaires des côtes est-africaines. Il y avait énormément de comptoirs, que ce soit Kilwa, Zanzibar, de comptoirs où on déportait en fait les populations africaines qui étaient... ni musulmane ni christianisée, qu'on a appelé en portugais les cafres et qui a donné le nom de notre ethnie aux afro-descendants réunionnais qui sont les cafres. Et c'est un mot qui vient de l'arabe et qui venait du terme kafir, donc mécréant, parce que c'était des peuples qui avaient leur propre spiritualité et du coup qui ont été asservis par les colons et d'autres populations africaines qui étaient en marchandage avec ces fameux colons. Et du coup, il y a eu d'abord ce premier peuplement par l'esclavage, puis on a eu les vagues d'engagés, dont de nombreux engagés originaires de la côte est de l'Inde, et plus précisément de la région de Pondichéry, qui est une ville en Inde où il y a toujours actuellement les ascendants de ces descendants d'Indiens qu'on retrouve à l'île de La Réunion, qui sont tamouls pour la grande majorité. Et l'engagisme a aussi amené aussi beaucoup d'Africains, du coup, des Comores de Madagascar. Moi, mon propre arrière-grand-père, il a émigré à La Réunion par ce biais-là. Tout est tracé, hein, tout est archivé. Donc on a pu retrouver le nom du bateau dans lequel il est venu, je crois que c'était le Suffren, son ami qui l'accompagnait, le matricule qu'il avait, son matricule d'engagé.
Tu peux dire c'est quoi l'engagisme ?
L'engagisme, c'est un système qui a été mis en place un petit peu avant l'abolition de l'esclavage. En fait, je pense qu'ils avaient prévu le truc, des colons, et qui a servi à remplacer justement l'exploitation des humains par l'esclavage, par une autre forme d'esclavage qui était un peu plus dissimulée. Donc c'était des gens qu'on payait, mais à un tarif proche de rien du tout, et qui se rapprochait beaucoup de l'esclavage dans, on va dire, les conditions de vie des personnes, des travailleurs engagés. Ils n'avaient pas le droit à la propriété, exactement comme les esclaves auparavant, avec juste, à la différence, une compensation financière qui n'avait pas lieu pour les esclaves. Voilà. Il y a eu énormément d'engagés. C'est ce qui a fait vraiment le peuplement de l'île. La première et deuxième vague de peuplement de l'île, c'était esclavage et engagisme. En amont aussi, on a eu l'arrivée de ce qu'on appelle les petits colons, les petits blancs chez nous, qui ont donné naissance à l'ethnie Yab. Et ça, c'était des Français de couche sociale très populaire, à qui on promettait, en venant dans les colonies, d'avoir un meilleur avenir. Et qui se sont retrouvés à faire contre-maître ou à faire des petits travaux pour les grands propriétaires terriens, comme la très connue Madame Desbassins. Et ces personnes-là, elles ont été lésées, pareil, à l'abolition de l'esclavage, dans le sens où les grands colons leur ont fait signifier qu'il n'y avait plus de travail pour eux. Et ça a été une population qui s'est retrouvée marginalisée au même titre que les engagés indiens et que les esclaves noirs. Et c'est un peu ces trois populations-là qui ont créé le terreau identitaire et génétique vraiment des réunionnais actuels. Un mélange qu'on retrouve un peu dans toutes les familles réunionnaises et qui est pour nous le peuple, on va dire, originel de l'île de la Réunion.
Toi, c'est un des enjeux de ton engagement de faire connaître l'histoire coloniale de la Réunion. J'ai eu l'impression tout à l'heure, après le film, qu'il y avait aussi des manques autour de ça et des besoins de se réapproprier aussi cette histoire, de la faire connaître.
C'est important pour moi et c'est important pour nous à Cap Hormoun, parce que on est victime de ce qu'on a pu voir dans le film, et le terme a été bien employé par des anciens, un génocide par substitution. Mmh. En fait, il y a eu un exode des Réunionnais pendant des années, une répression de leur identité et de leur culture.
L'acculturation, c'est ça qui était utilisé.
Exactement. Mmh. Et on parle d'acculturation parce qu'en fait, on nous a interdit d'être ce que l'on est et qu'on nous a forcé à être autre chose que ce que l'on est. Donc du coup, moi je sais que dans la génération de mon père, de mes tantes, tout ça, on a énormément de gens pour qui on empêchait de parler leur langue maternelle, donc le créole. On leur a appris à manger avec des couverts et on les a forcés, ils se forçaient même eux-mêmes pour pouvoir être acceptés par la société donc française, de laquelle on est censé faire partie, à être plus français que le français. Et ce phénomène-là, ça a fait nier l'identité réunionnaise. En fait, il n'y avait pas eu de fierté d'être réunionnais. C'était une honte pendant de longues années, des choses qu'on cachait. Et ça a créé des troubles identitaires chez beaucoup de jeunes réunionnais comme moi qui sont en métropole et qui, du coup, se sont vus confrontés, que ce soit dans les années 90, les années 80 ou même dans les années 2000, à la réalité en fait qui s'impose au territoire hexagonal et à la réalité de la France, qui est que nous n'avons jamais été considérés comme Français à part entière, mais toujours comme des Français de seconde zone et du coup comme des Français d'importation, si je peux me permettre le terme. Et c'est pour ça que pour nous il est important qu'on revienne à nos bases, qu'elles soient culturelles, spirituelles, identitaires, même en termes de gastronomie, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'implantations de fast-food aujourd'hui à La Réunion aussi, comme parlait Johan tout à l'heure. Alors qu'on a notre propre gastronomie, on a nos propres types de fast-food qui ont toujours existé et qui se faisaient sans autorisation préfectorale, sur le bord de route. On pouvait venir griller son poulet, boucaner, le vendre à la sauvette comme ça. C'est des choses qui ont toujours existé sur l'île et qui tendent à disparaître au vu de l'instauration d'une politique néocoloniale très 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 oppressive.
Donc là tu parles par exemple d'exigences administratives ou des choses comme ça qui viennent
Exactement, les exigences administratives, on en parlait avec Yohann tout à l'heure, comme par exemple le cas du Cabana Beach en Guadeloupe, qui est un bar qui a été créé par deux Guadeloupéens qui ont fait leur retour au pays, qui ont vécu en métropole très longtemps, qui ont fait leur retour au pays, qui ont décidé de créer un petit bar lounge, histoire d'animer un peu la ville de Sainte-Rose en Guadeloupe, si je ne me trompe pas, et qui a été détruit, poursuivi par des arrêtés préfectoraux, harcelé par le système judiciaire français. Alors qu'il y a de nombreuses, sous des prétextes fallacieux, de construction trop proche du littoral, alors qu'il y a énormément de métropolitains et de descendants de Becquet qui vont construire les mêmes bar-lounge encore plus près du littoral que ces personnes-là et qui ne vont jamais être poursuivis et qui au contraire pourront continuer leurs activités tout en y menant des politiques de ségrégation vis-à-vis des locaux. Et c'est des situations qu'il faudrait dénoncer, qu'il faudrait même combattre, moi, je pense, à juste titre.
Après, moi, j'ai vu des... Effectivement, j'ai habité un peu à La Réunion. Je pense que j'étais justement dans une espèce... Très jeune, j'ai eu une espèce d'illusion que c'était un endroit cosmopolite, qu'il n'y avait pas vraiment de natifs, que du coup, c'était pas la même colonisation, que du coup, c'était pas la même binarité noir-blanc. Et je pense que j'étais, oui, complètement dans l'illusion qu'avait voulu faire croire le gouvernement français qu'il n'y avait pas d'identité réunionnaise, mais un amalgame de gens qui venaient d'Asie, d'Afrique, d'Europe, un peu ensemble, et que ça fonctionnait. Et moi, je suis toujours éducatrice spécialisée aussi, et on m'a proposé d'aller travailler en psychiatrie, par exemple, et les gens comprenaient pas pourquoi je voulais pas. Et je disais, mais il y a toute une dimension culturelle dans la psychiatrie qui fait que ce serait vraiment pas du tout le bon endroit. Et c'était des réunionnais de souche qui me disaient, mais tu vas nous apprendre. Et je disais, mais non, mais moi, j'ai rien à vous apprendre, en fait. Et de cette espèce de truc intégré, je l'ai trouvé tellement violent que bon, je suis partie en me disant « tu es en train de faire n'importe quoi et tu vas retourner là d'où tu viens ». Et c'est important aussi de sortir de ce truc de binarité que j'entends beaucoup, de « il y a les Noirs et puis les Blancs, c'est les colons ». Parce que c'est la même chose qui s'est passée pour les rapatriés d'Algérie, où en fait, moi j'ai vu des gens, c'était des... enfants, petits-enfants, petits-enfants de sous-prolétaires français qui avaient été envoyés là-bas et qui se ramènent, qu'on re-ramène finalement en France hexagonale en les traitant encore comme de la merde, en leur disant oui mais vous avez bien profité, et qui disaient ben bof, et qui moi ma belle-mère elle se considère comme algérienne, elle est blonde aux yeux bleus, elle est clairement pas algérienne et elle a toujours pas compris. Et j'ai l'impression qu'il y a une volonté, en tout cas, de l'État français de lisser. On parle souvent de nos ancêtres, les Gaulois, comme un peu la caricature de ce truc-là. Mais ça va vachement plus loin que ça. C'est les mots, c'est la langue, c'est comment on t'apprend ton histoire, comment on ne t'apprend pas ton histoire. Même nous, comment nous, Français hexagonaux, on nous raconte notre histoire de super résistants face au nazisme, etc. On sait très bien que c'est faux. Et ça, c'est juste un truc qui se perpétue. Et je pense que les gens... des colonies actuelles françaises, c'est ceux qui s'en prennent, qui le subissent le plus, où il y a le moins de recul, parce que justement on a empêché l'ethno, la socio, la littérature, on a empêché tellement de choses que du coup il y a de moins en moins de choses sur lesquelles ça se s'accrocher. Et j'avais envie que tu développes un peu justement ce que tu as évoqué vite fait à la fin du film, de tous ces nouveaux jeunes qui se remettent à écrire, ou en tout cas qui relayent la culture lyonnaise qui existe, que tu sois blanc, enfin cafre ou pas, enfin ouais.
Alors oui, comme j'ai expliqué, on n'a pas cette binarité qu'on peut trouver aux Antilles, parce que tous les Blancs ne sont pas venus en profond colon, ou du moins en colon exploiteur. Il y a ce qu'on appelle chez nous les petits Blancs, qui sont venus en tant que contremaîtres à des... Enfin, qui étaient eux-mêmes marginalisés, méprisés par les gros oseaux, donc les gros propriétaires terriens qui faisaient venir les esclaves, etc. Et il y a eu ce mélange durant l'époque du gouvernement Gallieni, donc entre 1904, de 1904 jusqu'à l'arrivée de Debré en 62-63, où ces populations marginalisées de petits blancs se retrouvaient dans les hauts, à cultiver des petits lopins de terre qui pouvaient, desquels ils pouvaient avoir accès, et qui ont communié très tôt avec les marrons qui étaient partis en esclavage, en fuite d'esclavage dans les hauts aussi, qui ont appris les uns des autres, qui ont appris à s'entreconnaître et qui ont fait le brassage qu'on connaît actuellement à l'île de la Réunion. C'est ce qui fait aussi cette histoire-là, on ne la raconte pas et elle est utilisée sans être racontée, sans être narrée, comme, bah, comme tu disais, comme un vecteur d'harmonie et de vivre ensemble. Mais on ne raconte pas l'histoire qu'il y a derrière. On ne raconte pas que c'est une histoire qui s'est créée dans la souffrance, dans la douleur. Et d'ailleurs, notre musique traditionnelle, le Maloya, c'est une musique qui raconte, et Daniel Waro en est un des plus grands chantres, et lui, c'est un descendant de Yab, clairement. Il est blond de peau, c'est un descendant de Yab, et il raconte cette histoire, cette violence qu'il y a eu, même à la rencontre de ces personnes, donc de ces petits blancs quand ils ont rencontré les marrons, les préjugés, les différences qui ont dû être déconstruites. Et c'est justement dans l'honnêteté, la franchise et dans... Et dans surtout, je pense que l'identité réunionnaise, elle est née dans le mépris de la France, de ce qu'on était, qui a fait qu'il y a pu avoir cette symbiose entre ces peuples-là, qui venaient d'endroits différents, et qui a créé ce qu'on connaît aujourd'hui, notre culture et notre identité. Mais c'est des choses qui ne sont pas narrées, c'est des choses qui ne sont pas racontées, c'est des choses qui sont mises sous silence. Et en effet, dans les années 60, en vrai, on est un peuple qui s'est toujours battu pour faire valoir notre histoire. On a eu des grands écrivains comme Sudel Fuma, des historiens comme Bruno Maillard, entre autres, qui était l'élève de Sudel Fuma, Prosper Eve, Daniel Honoré, qui était un linguiste. Je crois Charles Amédée aussi, si je ne me trompe pas, qui a écrit le dictionnaire français-créole. Et toutes ces personnes-là qui se sont battues, on a aujourd'hui actuellement ce qu'on appelle l'Office La Langue. C'est un office qui s'occupe de réhabiliter la langue créole dans l'espace public. Donc on a beaucoup de villes qui sont écrites... un peu comme ici dans certaines régions en français et en créole réunionnais. Et bah, ils ont même développé l'apprentissage de la langue créole dès le collège, il me semble. Avant, c'était à l'université, mais maintenant, ça s'est prolongé jusqu'au collège, au lycée. Et du coup, oui, c'est un combat qu'on doit mener. Et nous, les nouvelles générations, on est habité par cette volonté de vouloir mener ce combat que nos anciens ont essayé de mener et sous l'oppression et avec de grandes difficultés. Voilà.
Et toi, Johan, t'as l'impression d'avoir accès à ton histoire ?
Pas du tout. Mon histoire, en fait, c'est moi qui vais la chercher. Je m'intéresse à l'histoire de la Martinique, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de tout ce qui a pu se passer dans d'autres îles, parce que c'est essentiel pour nous de savoir qu'est-ce qui a été fait envers nous et d'où nous venons également. Et en cherchant d'où nous venons, on est dans la capacité de comprendre pourquoi on a toutes ces diversités de cultures et quelles sont les origines de ces diversités de cultures. Partout, à la Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe, on va retrouver des similitudes dans les traditions, dans la musique, les plats. Voilà. On va toujours trouver des similitudes et ça va nous expliquer, ça va nous permettre de comprendre d'où on vient et pourquoi on a eu ce qu'on appelle aujourd'hui tradition, qui en fait découle d'une seule et même origine. Et malheureusement, on a tous eu à subir le même traitement, que ce soit à La Réunion, que ce soit à la Martinique, la Guadeloupe, aux Seychelles, Madagascar, les Comores. On a peut-être des particularités dans certaines îles, mais effectivement, il y a toujours cette même façon de procéder pour pouvoir asseoir une domination sur un peuple. Et malheureusement, on n'a pas d'autre choix que de s'informer en tant qu'afro-descendant et comprendre qu'aujourd'hui, il faut qu'on le salie. On n'a pas à se rejeter entre nous. On a à comprendre qu'on a tous la même histoire. On a tous les mêmes origines et on vient tous du même peuple. C'est la raison pour laquelle je suis avec lui aujourd'hui, avec Yannick. Et c'est la raison pour laquelle je suis proche de personnes qui viennent d'Afrique. et je suis proche de personnes qui viennent des îles, même de Nouvelle-Calédonie, peu importe. C'est, on a le même passé, en fait. On a le même passé et il faut qu'on s'entraide, qu'on comprenne les histoires de chacun et qu'on utilise ces histoires pour savoir comment se comporter vis-à-vis de l'oppresseur et comment l'oppresseur va s'y prendre pour justement nous accueillir. Voilà. Si j'ai quelque chose à dire, ce serait ça.
Et comment vous définiriez tous les deux la différence pour vous entre autonomie et indépendance, et c'est quoi que vous rêvez pour vos territoires ?
Vas-y. La différence entre autonomie et indépendance, c'est que pour moi, l'autonomie, c'est un peu ce qu'on a obtenu avec la départementalisation. Et là, le dernier changement de profil qui était la régionalisation. Donc on n'est plus des DOM, on est des DROM. Mais rien ne change, en fait. On est toujours dans une situation néocoloniale. On est toujours dans, un peu comme toutes les régions de France, un pouvoir qui est centralisé à Paris par des bureaucrates complètement hors sol et déconnectés des réalités du peuple. Et déjà qu'étant déconnectés des réalités du peuple avec lequel ils vivent quotidiennement, c'est-à-dire le peuple hexagonal, ils sont encore plus déconnectés des réalités de populations qu'ils ne connaissent pas, de peuples qu'ils ne connaissent pas. Il y a juste à voir les interventions de nos chers membres du gouvernement à chaque fois qu'ils viennent dans les territoires d'outre-mer, où ils font des sorties médiatiques ahurissantes, où ils parlent, on a l'impression qu'ils parlent à des enfants de maternelle en s'exprimant avec nos anciens, avec des hommes qui ont déjà eu 10 vies de plus qu'eux. Et pour nous, l'indépendance, c'est la meilleure solution. L'indépendance dans le sens où, politiquement, économiquement, identitairement, culturellement, nous avons connu, en tout cas pour La Réunion, je parle pour La Réunion, nous avons connu une période justement entre 1904 et 1962 où on était complètement délaissés et oubliés par le régime français et où les gens ont réussi à vivre quand même. Il y avait une grande misère matérielle. Mais malgré le fait qu'il n'y ait pas tout ce béton, tous ces hôpitaux, etc., le fait que les gens aient des cultures diverses et des cultures très proches de la terre, très proches de l'humain dans sa primitivité, ça nous a permis de pallier à tous les problèmes qu'on pouvait rencontrer dans ces sociétés-là. Donc humainement, socialement, c'était ce qu'on appelle, nous, chez Capormoun, la période dorée de la population et de l'histoire réunionnaise. Et on avait nos remèdes avec les plantes, on avait le troc, on avait des systèmes d'organisation sociétaux qui nous permettaient de ne pas connaître la famine. On n'avait pas l'importation de riz massif qu'on a connu dans les années 50. Du coup, on a cultivé l'igname, on a cultivé le manioc, on a cultivé le songe, énormément de légumes et de fruits qu'on appelle aujourd'hui les légumes longtemps en créole, donc qui sont plus usités parce qu'on a des restrictions sur la production agroalimentaire sur l'île de La Réunion. Et nous, on souhaite une indépendance où on pourrait vivre. Alors nous, les indépendantistes, hein, on n'aurait aucun mal à vivre comme ce qu'on appelle les primitifs, et du coup comme des personnes qui sont simplement humaines et qui réfléchissent aux meilleurs moyens technologiques en respect avec l'environnement et la population du territoire pour pouvoir vivre de façon saine et cohérente. Ce qui n'est pas le cas des gouvernements qu'on voit issus des puissances occidentales qui sont capitalistes et consuméristes et qui, elles, ont un schéma de pensée idéologique totalement différent pour nos populations. Et pour nous, du coup, il y a la seule solution pour qu'on atteigne la souveraineté et une réelle condition de vie convenable sur nos territoires, ça serait vraiment l'indépendance. Une rupture totale avec le gouvernement français, une rupture totale avec le narratif colonial et l'histoire de France telle qu'elle a été écrite. Et une réhabilitation de notre culture originelle, une réhabilitation de nos principes, de nos valeurs, qui nous permettrait de nous développer dans un indice de développement humain qui serait plus proche de ce que l'on est réellement en tant qu'être humain.
À ce propos, une petite anecdote, il y a une trentaine d'années, du coup, quand j'étais à La Réunion, c'était le seul endroit de France métropolitaine ou pas, où on pouvait faire des crédits avec des remboursements à hauteur du RSA, enfin du RMI de l'époque. ce qui est vraiment incroyable. Enfin, ce qui montre des choses, de pousser les gens à la consommation même quand il n'y a pas, en sachant que de toute façon, tu vas toucher tes 450 euros tous les mois. La banque va les prendre immédiatement. Ce qui sous-entendait aussi que tout le monde comprenait très bien qu'il y avait une économie parallèle, notamment autour de l'alimentation et du troc, et qu'en fait les gens arrivaient à lâcher l'intégralité de leur RMI à l'époque, et où je m'étais dit waouh, ils ont détaxé les cigarettes, l'alcool, tous les trucs qui tuent, et en plus on leur fait faire des crèdes dans tous les sens, et ça marche, enfin oui ça marche en fait de faire comme ça, mais c'est comme dans les BD sur les cow-boys et les indiens quoi, on vous donne de la merde et on vous prend tout.
Tout ce qui est pour moi, malheureusement.
Juste dire quelque chose, moi je pense à quelque chose, si tu me permets. Ok, tu vois, le traitement que ces personnes réservent aux personnes des DOM et des DROM, pour moi ces personnes sont stupides, parce que en tant que personne d'origine française, tu vas dans une île, qu'est-ce qui t'attire plus, de retrouver ce que tu as déjà en France ou de tomber sur un pays où tu vas découvrir des choses complètement différentes de ce que tu as l'habitude de voir?
Seconde option pour moi.
Voilà, tu vois. Et malheureusement, ils sont en train de tuer, en fait, ce qui représente l'identité d'une île, tu vois. En voulant faire en sorte de s'établir et de mettre en place un univers économique identique à ce qu'ils connaissent déjà. Au lieu de diversifier, de permettre aux personnes qui sont sur place de développer ce qu'elles ont et qu'elles connaissent, ce qu'elles ont l'habitude de faire, et justement d'augmenter l'attrait pour l'attrait touristique de d'autres pays envers ces îles qui sont différentes et qui font partie effectivement de ton histoire, puisque elles sont peut-être rattachées à la France, mais elles ont une particularité différente. C'est comme quelqu'un qui sort de Paris, qui va dans une autre région de la France pour découvrir un art culinaire différent ou bien un mode de vie différent. Faites la même chose dans des îles. Permettez aux gens justement de développer leur économie, leur tradition, et c'est ce qui va attirer de plus en plus de personnes. Permettez aux étrangers de venir plus facilement, et même aux personnes des îles différentes, de circuler dans ces îles pour pouvoir justement attirer l'attrait des gens pour ces îles.
Mais là, en tout cas, tu me donnes envie de poser une question dans le rapport au tourisme, et le rapport à... Est-ce que c'est une volonté que tu... Enfin, est-ce que ça vous parle qu'il y ait plus de tourisme dans ces territoires? Est-ce que vous pensez que c'est...
C'est possible. Pour moi, c'est possible. Mais malheureusement, ces personnes...
Ça ne va pas avec le racisme pour toi comme question, le tourisme?
Non. Pour moi, le tourisme, c'est quelque chose qui permettrait aux gens d'ouvrir leur esprit, de découvrir d'autres cultures, d'autres origines. Mais... de façon plus... tu vois, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les Antillais, ils ont un petit côté... ils ont des... Comment dire ça? Quand ils voient un étranger, ils ont un peu cette haine de l'étranger par rapport au fait que l'étranger leur prend tout. Alors que si tu permets à la personne qui vit sur les lieux de développer son activité et de lui permettre... de montrer aux autres effectivement ce qu'il a l'habitude de faire, il va se sentir beaucoup plus libre, et ça va permettre aux autres de découvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir en fait.
Est-ce que tu as envie de t'exprimer, Yannick, sur la question?
Moi j'aurais un autre propos sur le tourisme, à savoir que moi je ne serais pas contre plus de tourisme, mais un tourisme mieux orienté, mieux organisé, dans le sens où je me rappelle d'une phrase que disait monsieur Jacques Attali, le fameux, et qui disait que l'homme moderne doit pouvoir jouir des mêmes envies sur tous les territoires de la Terre. Dans le sens où il disait que chaque nation était comme un hôtel où on devait retrouver les mêmes services, donc des métros, du McDonald's. Et moi, je suis contre cette vision en fait, ouais, du tourisme. Je serais plutôt sur un tourisme qui serait organisé par les peuples locaux, et de façon à faire percevoir et à faire sublimer en fait, leur culture, leur environnement, leur tradition. À savoir que là, à La Réunion, ça a commencé à se développer. Enfin, ils ont créé quelques... comme un village, je ne me rappelle plus du nom, mais qui est situé dans les hauts de l'île. Si je ne me trompe pas, c'est Ogol, à Saint-Louis. Et où, en fait, on a reconstitué un village marron. Donc, un village qui ressemble au village dans lequel vivaient nos ancêtres, qui fuyaient en marronnage. Et où un guide qui est descendant de marron lui-même présente, que ce soit aux Réunionnais ou aux touristes qui viennent, les conditions de vie de nos ancêtres et donne des explications historiques. Moi, je suis pour ce type de tourisme-là. Après, un tourisme consumériste, capitaliste, où on viendrait profiter des plages privées comme si on était à Saint-Tropez, sur l'île de La Réunion, ça ne m'intéresse pas. Et c'est un tourisme qui nous porte beaucoup de désagréments et qui est vécu comme une... comment dire ? Comme une oppression, parce qu'on est dans la folklorisation de ce qui est notre culture. On est dans la folklorisation de ce qui est sacré. On l'a vu la dernière fois, dernièrement avec l'arrivée de Manuel Valls sur l'île, où on avait des gens du conseil régional, etc., qui se sont mis à lui faire des chants traditionnels. Donc c'est des chants sacrés. Nous, on utilise les Réunionnais uniquement dans nos cérémonies de culte aux ancêtres, et qui lui ont fait des chants sacrés comme si c'était, excusez-moi du terme, mais Jésus-Christ qui revenait... après l'Assomption. Et du coup, pour nous réunionnais foncièrement attachés à notre identité, à notre culture, c'est intolérable ce genre de comportement et de vulgarisation de ce qui est sacré pour nous.
Voilà. Donc ça ne fait que nourrir de la rancœur envers ces gens. Tu vois.
Par ailleurs, il y a un film là où c'est même pas un film qu'on a sélectionné, je crois, où on voit une réunion de Emmanuel Macron. Alors, aux Antilles, en tout cas, je ne sais plus exactement où il est. Il parle avec des gens qui sont beaucoup plus âgés que lui et il les appelle les enfants. Et comme s'il faisait des blagues, parce qu'en fait, ils ne veulent pas rendre le micro, ils veulent continuer à poser des questions. Et il leur dit « Ah, mais j'avais dit, c'est la dernière question. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font comme blague? Oh là là, allez, on se calme les enfants. » Et vraiment, j'étais effarée, je me suis dit « C'est pas possible. » Que même dans ces écoles de com, on lui ait pas dit tu ne parles pas à des personnes âgées en les appelant les enfants. Sinon, ça sous-entend que effectivement, tu as une telle condescendance pour les personnes noires que tu considères que c'est jamais des adultes en fait.
Ouais. On a le même problème à La Réunion avec les touristes venant de métropole qui sont très condescendants, qui vont t'expliquer comment profiter de tes plages,
c'est ça.
Qui vont t'expliquer comment parler ta langue. Qui vont t'expliquer qu'eux, ils connaissent mieux que toi les sentiers dans les hauts parce qu'ils font de la randonnée souvent, ils font du trek. Mmh. Donc que nous, on est des abrutis de ne pas faire du trek et de la randonnée comme eux. Mmh. Qui vont te dire de baisser la musique quand tu fais une fête familiale ou une cérémonie sacrée. Enfin, on est vraiment face à des comportements ultra condescendants qui font que moi, personnellement, je ne suis pas fan du tourisme tel qu'on le connaît. Ouais. C'est un genre de tourisme industriel. Mmh. Par contre, je serais favorable le jour où on est indépendant à un tourisme local à échelle humaine et qui permettrait aux gens qui sont fortement intéressés par l'apprentissage de diverses cultures et l'entreconnaissance entre les peuples de venir jouir et bénéficier de la découverte de notre peuple, de notre île, de notre territoire, et ils seront les bienvenus et ils seront accueillis comme si c'était des réunionnais locaux chez nous. Il n'y aura aucun problème avec ça. Par contre, des colons déguisés en touristes complètement condescendants et qui viennent s'accaparer notre territoire, notre culture et la folkloriser, ça non, on n'en veut plus.
Et moi j'ai une dernière question à vous poser. Quand on a travaillé avec le comité là sur les drômes, les dômes, les trucs, les terres australes, les machins, enfin tous ces noms, et qu'on s'est rendu compte que légalement ça signifiait des choses différentes et que les droits n'étaient pas les mêmes partout et l'organisation politique n'était pas la même partout, moi ça m'a évoqué le régime d'apartheid d'Afrique du Sud, en fait, où on a lâché des petits avantages aux métis ou à ceux qui faisaient je sais pas quoi, et qu'on a fait que monter les gens les uns sur les autres, ce qui fait que quand ils ont obtenu l'indépendance, bah, y a eu une espèce de vendetta sur tous ceux qui avaient accepté les petits cadeaux. Et je me demandais comment, du coup, vous arriviez à coordonner vos luttes et mettre en commun vos avantages et vos désavantages de ce que vous lâche papa, qui vous donne un peu des trucs comme ça, là. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais...
C'est assez clair. Ben moi, pour la Réunion, je pourrais t'expliquer que nous, chez Kapor Moon, et puis il y a d'autres mouvements aussi qui font... Il y a QG Zazalé, il y a Kaubuntu, il y a un autre mouvement, je ne me rappelle plus du nom. Mais on fait ce travail de recherche culturelle, identitaire, où on redéfinit en fait notre roman national réunionnais et où on explique en fait les choses que la France n'a pas voulu expliquer ou qu'elle a voulu taire pour faire en sorte que justement... il n'y ait pas de regain de l'indépendantisme et de volonté de souveraineté de la part du peuple réunionnais et de volonté d'autodétermination. Comme si on annihilait un peu l'âme, l'esprit du réunionnais pour qu'il se soumette plus facilement. Et je pense que le meilleur moyen pour arriver à vaincre cette oppression, ce serait vraiment de, comment dire, de rééduquer. Ça passera par l'éducation, que ce soit éducation populaire ou éducation même scolaire, mais de rééduquer... le Réunionnais et les Réunionnais à leur identité profonde, à ce qu'ils sont, et les connecter à la réalité du monde actuel qui est un monde multipolaire et où il y a de nombreuses opportunités de pouvoir vivre ensemble et se développer sans entrer dans des guerres fratricides comme on a pu connaître dans les pays qui étaient justement sous apartheid.
Il y a du monde qui passe autour de nous. Hein. C'est l'ambiance festival aussi. Johan, ça te donne envie de répondre aussi, réagir à cette question des... J'ai l'impression aussi des liens. C'est ça, hein, c'est comme les liens dans les luttes.
Bah, disons, moi, ça me donnait l'impression qu'il y avait vraiment besoin de faire des liens parce que j'avais l'impression que papa Manu donne des petits sucres qui distribue aux bons élèves et puis l'enlève aux mauvais élèves et que je me disais il y aura pas de... ça va être compliqué s'il n'y a pas de coordination parce que tout le monde va prendre ce qui est humain de dire vas-y moi je prends mon avantage, dommage pour les Kanaks ou dommage pour les Maorés ou dommage pour je sais pas qui et de voir comment vous effectivement vous arrivez à vous coordonner un minimum pour présenter quelque chose de frontal, d'offensif au gouvernement français.
C'est difficile en fait, parce que tu vois, d'où l'importance c'est effectivement de se renseigner sur notre histoire. Car à Haïti, par exemple, on a vite vu comment ils ont compris qu'il était important de favoriser une catégorie de personnes qui avaient été esclavagées au dépend d'une autre catégorie de personnes esclavagées. Ce que je veux dire par là, on va favoriser les personnes plus claires de peau et au dépend des personnes qui sont plus foncées de peau. On va leur donner des avantages au dépend des autres. Et c'est quelque chose qu'ils ont toujours fait parce que ce qu'ils veulent faire, c'est nous diviser entre nous. Et malheureusement, moi je parle en tant que Martiniquais, malheureusement, on le voit, quand j'étais petit, il y avait toujours une différence entre un Martiniquais qui est trop foncé, un Martiniquais qui est plus clair de peau. On appelait les clairs de peau chabins. Une personne qui vient de France, par exemple, on va la mettre de côté. Enfin, moi, j'ai vu ça quand j'étais petit. Alors que, en vérité, moi, je ne le savais pas déjà, mais moi, ça me dérangeait déjà de mettre de côté quelqu'un d'autre par rapport à sa couleur de peau. Je ne voyais pas l'intérêt de le faire, en fait. Donc, je ne me suis jamais mêlé dans ce genre de problème. Et c'est après que j'ai compris pourquoi ça arrivait, en fait. Et aujourd'hui, je ne pense pas que la Martinique ou la Guadeloupe en soient capables. Quand bien même aujourd'hui, de moins en moins de personnes, de plus en plus de personnes n'entrent pas dans cette différenciation entre une personne plus foncée de peau et moins foncée de peau. Il y a une acceptation effectivement des différences de couleur de peau, mais il y a quand même des personnes qui restent dans ce truc, cette fermeture d'esprit envers d'autres personnes, malheureusement. Mais j'avoue que ce serait l'objectif final à atteindre, c'est de faire en sorte que tout le monde aille au-delà de nos différences. Parce que c'est à travers nos différences que ces personnes qui ont mis en place toutes ces choses, c'est à travers nos différences que ces personnes assoient leur domination sur nous-mêmes. Voilà. Mais malheureusement, ça n'a pas encore été fait. Voilà.
Ok. Bon, merci. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter là.
Parfait.
Merci à toi.
Il y aurait encore 1000 questions, mais on va s'arrêter.
Est-ce que vous avez un dernier mot, un truc? Toi, tu as dit il faut qu'on arrive à dépasser nos différences.
Oui, c'est ça.
Yannick, ta punchline de la fin. C'est un peu dur comme question.
C'est compliqué. Bon, après, pour en revenir à dépasser les différences, nous, à Capormon, on a conceptualisé un terme qu'on a nommé Kilaï, qui est une abréviation de trois mots, Kiltir, langue et histoire, et qui est pour nous un terme qui devrait remplacer le concept de créole et de créolité, qui pour nous n'a aucun sens, puisque la créolité, c'était le fait d'être mélangé avec le colon par le viol et le droit de cuissage, qui a énormément eu lieu sur nos territoires, en tout cas ce qu'on appelle les quatre anciennes colonies, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, et qui exclut du coup les Maorais, les Kanaks et d'autres peuples qui sont dans les mêmes situations que nous et qui sont déjà des termes qui permettent une première dissociation de nos luttes et de nos identités, alors que comme disait Johan, elles sont similaires, elles sont interconnectées, elles sont très parallèles. Et voilà, moi ma petite punchline, ça serait ne restons plus des créoles et devenons des Kilaïs.
Est-ce que tu pourrais nous faire la liste des mots qu'il faut arrêter d'employer, comme France métropolitaine, créolisation?
Créolisation, ce serait un mot qu'il faudrait arrêter d'employer, puisque quand on prend un dictionnaire et qu'on lit la définition du mot créole, c'est clairement un colon blanc qui est venu s'installer sur l'île, ou un esclave natif de l'île. Donc il faisait une différence entre les esclaves qui étaient en arrivant d'autres territoires et leurs enfants qui étaient considérés comme esclaves noirs créoles. Et je pense que ce terme-là, c'est le terme qui permet encore aujourd'hui à beaucoup de Réunionnais, beaucoup de gens de l'outre-mer, de se considérer comme des Français, alors que c'est une illusion totale.
Est-ce qu'on arrête de dire outre-mer, puisque finalement c'est nous qui sommes de l'autre côté de la mer par rapport à vous?
C'est une question à laquelle je n'avais pas réfléchi. Mais
je me la suis posée beaucoup en me disant...
Il faudrait qu'on reprenne nos appellations authentiques. Par exemple, pour les Kanaks, on dit Nouvelle-Calédonie alors que leur pays l'appelle Kanaki.
Oui.
Voilà. Revenir à ces appellations authentiques, on n'est pas obligé de parler de l'outre-mer, mais de parler des territoires qui sont la Martinique. On peut parler directement du territoire. Comme pour notre langue, le créole réunionnais, pourquoi pas juste appeler ça le réunionnais? Pourquoi le créole réunionnais, ce qui fait qu'il est considéré comme un patois et comme on disait dans le film qui a été projeté tout à l'heure, comme du petit nègre.
Oui. Et toi, t'as des mots interdits que t'en as marre d'entendre, à part d'où tu viens?
Il n'y a que le mot créole. Après, j'en vois pas d'autres spécialement. Ouais, okay. C'est vrai que le mot créole, c'est un mot que... On l'utilise souvent pour nous définir, alors qu'en vérité, ça ne nous définit pas. Ça ne définit pas notre langue. Ça définit juste des personnes originaires de la France qui sont venues s'installer.
Ok, alors on abolit créole, pour de vrai.
Ouais.
Ok, c'est bon.
Voilà. Merci.
Je veux juste donner un ouvrage que je conseillerais à n'importe qui de lire. Ça, c'est sur Haïti. C'est le meilleur livre qui apporte des éléments sur Haïti et qui peut, à travers l'histoire d'Haïti, aider les gens à comprendre ce qui s'est passé en Haïti ainsi que sur toutes les autres îles. Ça s'appelle Les Jacobins Noirs. Et c'est un Américain qui a travaillé dessus qui s'appelle C.L.R. James. Et c'est les Jacobinards. C'est Jacobinards. C'est le meilleur livre qui a été sourcé, où il y a plein de d'éléments qui permettent d'expliquer effectivement ce qui s'est passé à Haïti. Et il faut savoir que ce qui s'est passé à Haïti, c'est un peu ce qui s'est passé dans toutes les îles. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci à toi.
Et pour se quitter en musique, on écoute maintenant L'Ocean de Anoahoro, un morceau de Maloya, la musique réunionnaise dont nous parlait Yannick.
Chemipi